Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser et nos amours. Ce soir, la troisième rencontre autour de cette question ou de cette expression. Ce soir avec Catherine Chalier. Et nos amours, qu'on peut prolonger par ou bien comme Apollinaire, faut-il qu'il m'en souvienne, ou bien cette question un peu anodine, et nos amours dans tout ça, et l'amour dans tout ça, nos amours, c'est-à-dire aussi les amours humains, mais il y en a peut-être d'autres. Nous allons aujourd'hui parler de l'amour dans la spiritualité avec Catherine Chalier, professeure émérite de philosophie à l'université de Nanterre. Bonsoir Catherine Chalier.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. J'ai résumé un peu vite l'objet de la discussion que je me réjouis beaucoup d'avoir avec vous ce soir sur l'amour. Je disais dans la spiritualité, vous avez publié un livre à mes yeux fondamental intitulé « La gravité de l'amour, philosophie et spiritualité juive » dans une collection d'ailleurs qui rassemble des conférences prononcées à l'Institut catholique de Paris. Donc vous avez traité de l'amour dans ce cadre. Et puis il y a beaucoup d'autres livres, Catherine Chalier, mais votre dernier ouvrage intitulé « Pureté, impureté », une mise à l'épreuve qui est paru lui chez Bayard, ne traite pas de l'amour en apparence, mais j'avais quand même envie de commencer par là. Il me semblait, Catherine Chalier, que dans ce livre sur la pureté, qui cherche à distinguer entre la vraie pureté, enfin en tout cas une pureté non destructrice, une pureté qui n'engendre pas un fantasme de destruction au nom de la pureté. Le critère de la pureté, disons, positive, c'est quand même quelque chose comme l'amour. C'est-à-dire, à la fin de votre livre, vous dites quand même, pour savoir si on est du bon côté de la pureté, si on recherche la pureté sans se tromper, si on ne va pas détruire, tuer au nom de la pureté, c'est quand même, il y a quand même à la fin de votre livre sur la pureté ce critère de l'amour. Est-ce que je me trompe, Catherine Chalier ?
Oui, si, mais surtout si on pense l'amour comme une attention à autrui sans réflexivité propre, sans retour sur soi. Et j'avais été très frappée...
Autrui pour lui-même, finalement.
Autrui pour lui-même. J'avais été très frappée par un texte poétique de Gustave Roux, le poète suisse, un très grand poète suisse, où il parle justement de sa quête de la pureté. Mais alors là, c'était une pureté justement qui l'éloignait de la terre, qu'il cherchait justement loin des humains, dans les cimes. Et puis, il se rend compte que cette pureté-là est en fait une pureté destructrice. Et dans un mouvement différent, il se rencontre et il voit un homme qui travaille la terre près de lui et qui est tout à son travail, qui est toute attention pour son travail. Et à ce moment-là, il découvre une pureté qui coule dans la matérialité des choses et dans le sang de cet homme. Et cette pureté-là, cette pureté de chair, et qui est regardée par cet homme qui est toute attention à, je pense que oui, on peut la rapprocher de l'amour.
De l'amour. Mais oui, dès le début de votre livre sur la pureté, qui est un livre là aussi très important, parce que cette catégorie de pureté finalement traverse toute notre vie morale. On cherche plus ou moins à être pur, et en même temps, on ne sait pas bien ce qu'on entend par là. Vous opposez tout de suite deux exemples littéraires, la pureté mallarméenne, le livre, la littérature pure, que vous, justement, ce à quoi Gustave Roud a finalement renoncé, c'est-à-dire une pureté glaciale, une pureté inhabitable. Et puis, ce texte que vous venez de rappeler et qui m'avait frappé dans votre introduction, vous le citez, et je vous cite le citant, « Des confins vertigineux de l'autre pureté, je retombais aux pieds de cet homme, j'étais rendu à l'humain, je pénétrais lentement la pureté d'un être. » C'est cela que vous opposez, finalement, une pureté abstraite, sans personne, et puis là, une pureté concrète, et là, on retrouverait l'amour.
Oui, je pense, et si vous voulez, souvent, le vocabulaire de la pureté, on l'associe au vocabulaire d'une essence qui serait non contaminée par quoi que soit d'autre. Or, si on cherche à réfléchir sur la pureté avec ce vocabulaire de l'essence, forcément, on ne peut pas la trouver, ou on la trouve justement en s'arrachant au monde, et elle n'existe pas pour nous. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé justement de penser la pureté, pas du tout comme une essence, mais comme une force qui nous anime, et une force qui nous anime dans un sens qui est d'être, je dirais d'une formule très simple, pour la vie. D'être une formule pour la vie en nous-mêmes, par opposition donc à, par exemple, l'impureté qui serait tous les moments où nous nous laissons dominer, envahir par des forces qui nous conduisent vers la mort, vers la destruction, vers la haine. Pour parler ce vocabulaire qui nous rapproche de l'amour.
Qui nous rapproche de l'amour, qui a lui-même un contraire, évidemment.
Oui, bien sûr. Et la pureté serait au contraire lorsque la force nous conduit vers ce qui est en alliance. Et donc, c'est aussi introduire de l'altérité dans la pureté, pas justement la pensée comme une essence exclusive.
Est-ce qu'on pourrait dire, Catherine Chalier, que vous opposez ainsi la pureté conçue comme la pureté de la chose qui est devant moi, et dont chercherait son essence pure, l'arbre pur, la littérature pure, le savoir pur, que sais-je, et puis bien pire aussi peut-être en politique, et puis la pureté du regard, non pas la pureté de la chose, mais la pureté de l'intention, la pureté de l'attention portée à toutes choses, même si elles sont apparemment impures, la pureté d'un regard qui est capable d'aimer même le malheur et la souffrance.
Oui, mais justement, cette pureté-là, Frédéric Worms, elle demande aussi un travail sur soi-même. Et en ce sens, on peut retrouver le vocabulaire de la spiritualité que vous avez introduit au début, parce que si je reprends la célèbre distinction que fait Foucault entre la philosophie et la spiritualité, il dit la spiritualité, c'est justement une vérité qu'on cherche à atteindre, mais qui exige un travail sur soi-même.
C'est ça. Vous voyez ? Donc la pureté de l'objet, on croit qu'on peut l'atteindre par une sorte de connaissance, de savoir pur.
C'est ça.
La pureté de l'intention, c'est par un travail sur soi-même, et en refusant aussi une impureté intérieure qui serait aussi un adversaire intime, finalement, la haine est à l'intérieur de l'amour.
Je pense qu'il y a un adversaire intime, oui. C'est un adversaire intime qui est aussi une force. Dans la tradition juive, on parle de Yetzer, qui est une force justement
qui nous attire, qui
forge en nous des idées, qui est pas justement simplement comme ça, qui force en nous des
mais
idées.
Pas purement affective,
pas seulement
qui peut déformer toute notre connaissance.
Finalement. Qui de toute façon nous attire vers ce qui est du côté de la mort et du côté de Thanatos, du côté de la mort, du côté finalement de la destruction, de la désunion et de l'inertie. Et c'est ça l'impureté fondamentale. L'impureté fondamentale dans la tradition hébraïque, c'est véritablement tout ce qui nous met en contact avec la mort.
Avec la mort. Mais alors justement, Catherine Chalier, je me demandais, vous avez écrit plusieurs livres très importants sur des grandes catégories morales, la pureté. Vous avez publié aussi, entre le livre sur l'amour et le livre sur la pureté, un livre sur la mémoire et le pardon. Je me demandais si l'amour et la haine, donc, étaient des catégories morales comme les autres pour vous, ou bien le critère, finalement, peut-être avec la vie et la mort, pour étudier toutes les autres catégories morales, c'est-à-dire au fond, l'amour étant à la fois le critère pour la mémoire et le pardon, pour ce qui est la pureté contre un mauvais concept de pureté, ou bien est-ce que, au fond, c'est pour vous, j'allais pas dire un objet comme les autres, mais est-ce que vous le mettez sur le même plan que les autres catégories morales ?
Je crois pas je le mette sur le même plan que les autres catégories morales, mais il me semble que cette dualité, justement, donc entre l'amour et la mort, donc cette dualité, elle se vit, elle s'éprouve et elle se pense selon différents registres, selon différentes modalités Mais elle est toujours présente.
Elle traverse
toute notre expérience et elle nous traverse intimement. Nous pouvons aussi céder à ces forces-là en nous-mêmes et c'est un très dur travail. À la fin du livre sur la pureté, je cite un texte qui m'a beaucoup émue personnellement quand je l'ai lu. C'est un texte qui se trouve dans un livre de Aaron Appelfeld. Il raconte, c'est dans un livre sur les cafés qui est pas traduit en français, qu'il sera peut-être.
Que vous avez lu en hébreu, donc.
Oui, je l'ai lu en hébreu. Et donc, il raconte que quand il est allé en Israël, donc après avoir eu son enfance, donc errante dans les forêts pendant la Shoah,
il a survécu à l'assassinat de ses parents, de sa mère. Son père a survécu.
Oui. Et donc, il raconte qu'il va dans des cafés où il rencontre souvent d'autres survivants, d'autres rescapés. Et il y a un passage que je trouve vraiment très très beau. Il parle d'un certain Arthur qu'il décrit comme étant un grand colosse, très fort, beaucoup plus fort que tous les autres et qui a vécu des choses tout à fait horribles, comme tout le monde. Mais il écoute les autres qui sont physiquement beaucoup plus
fragiles que lui.
Ouais. Il les écoute avec une attention qui est tout à eux, si vous voulez, tout à eux. Et moi, cette attention, il attend pas son tour pour raconter ses histoires à lui. Cette attention-là, elle est sauvée de sa souffrance.
Mais alors pour vous, justement, c'est là, Catherine Chalier, qu'on retrouve quelque chose comme un critère, l'attention à l'autre, c'est cela qui définit la pureté, qui elle-même donc se fonde sur l'amour. Je peux citer malgré tout ce très beau passage de Aaron Appelfeld que vous nous faites découvrir en français dans votre livre sur la pureté. Vous dites, il écrit ceci de cette personne, en effet, mais il a l'art d'écouter. Quand il écoute, son corps géant écoute. Cette pleine écoute n'élève ni n'abaisse autrui, comme on aurait peut-être pu le croire. Il y a une sorte d'admiration dans son écoute, comme si nous étions tous ses enfants ou ses jeunes frères, qu'il convient d'encourager à dire des paroles sensées. Donc pour vous, finalement, c'est l'intention ou l'attention à l'autre qui traverse toutes les catégories morales. J'en reviens à la méthode de votre travail, Catherine Chalier. Donc, vous faites de philosophie morale avec des ressources très originales, très profondes, de la philosophie de Lévinas jusqu'à la spiritualité juive, que vous avez rencontrée d'ailleurs peut-être à travers Lévinas, vous nous le direz, ou vous nous le rappellerez. Mais dans votre méthode à vous, si j'ose dire, vous traversez les grands problèmes moraux du monde contemporain et de notre existence, mais peut-être avec ce fil directeur, malgré tout, je ne sais pas, peut-être je me trompe, de l'amour et de la haine ou de la vie et de la mort.
Oui, mais je ne me formule pas moi-même les choses comme vous les formulez, si vous voulez.
Alors dites-nous, en quoi vous n'avez peut-être pas envie de formuler votre propre méthode, c'est toujours très intime, c'est impressionnant quand on va de livre en livre en vous lisant.
Oui, mais parce que je ne la connais pas moi-même, cette méthode. Elle se fait en faisant, quoi.
Bien sûr.
Et donc c'est aussi la force de l'écriture qui fait découvrir ce qu'on pense.
J'ai l'impression que vous rencontrez aussi dans le discours contemporain, vous êtes toujours en prise aussi avec l'actualité des humains d'aujourd'hui, vous rencontrez un usage des catégories morales et vous avez envie de dire, faisons attention, elles peuvent emmener vers le pire, elles peuvent à certaines conditions, avec certains critères que vous trouvez aussi dans les textes que vous commentez, avec certains critères, en effet, il faut en prendre soin finalement de ces catégories morales.
C'est vrai, Frédéric Vogt, mais moi, ce que je pense, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans ce que je peux apporter peut-être à la réflexion, c'est du fait que je connais bien la tradition hébraïque et qu'elle me nourrit personnellement, qu'elle me réjouit, qu'elle me fait vivre, même je peux dire, eh bien c'est aussi montrer comment cela n'est pas séparé des grandes questions qui occupent les êtres humains et en particulier nos questions modernes. Bien sûr, je peux pas traiter de ce que je ne comprends pas bien, mais toutes ces questions humaines, peut-être que cette tradition que je connais permet d'en renouveler un peu l'approche. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça que j'essaye de faire, ce que vous appelez la méthode.
Oui, mais j'insiste un tout petit peu avant de revenir sur votre rapport à la tradition hébraïque qui est très profond et qui vous amène dans le livre sur l'amour à contester un partage traditionnel des spiritualités en disant l'amour c'est le christianisme et la loi c'est le judaïsme. Donc vous analysez aussi la question de l'amour dans cette tradition hébraïque, mais au fond, ce que vous y trouvez dans cette tradition, est-ce que ça n'est pas aussi votre question à vous, c'est-à-dire ce critère fondé sur la vie et sur l'amour,
bien sûr,
pour étudier les questions morales?
Ah, mais ça, je crois que c'est certain, mais parce que la tradition hébraïque, si vous voulez, c'est aussi une tradition que vous interrogez. Et alors, c'est certain que je l'interroge aussi avec mes questions. Des questions qui sont issues aussi de la philosophie, de ce que j'ai étudié en philosophie et de ma vie propre, dont je ne suis pas censée parler ici.
Ah, chacun est philosophe tout en étant lui-même.
Mais voilà, nos questions, la question, oui, de la frontière entre la vie et la mort, elle me touche en effet beaucoup. Et l'idée de choisir la vie, comme nous l'enseigne le texte biblique, tu choisiras la vie, j'ai mis devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie, c'est une question quotidienne.
C'est votre boussole, finalement,
Catherine. C'est une question quotidienne, c'est une question très difficile.
Parce qu'il y a toujours cette tentation, finalement, ou cette force qui vient...
Et qui ne veut pas dire... Donc, choisir la vie, c'est justement choisir donc tout ce qui nous met en alliance, en alliance positive, donc, et pas avec autrui, pas qu'il annexe à soi, donc qui fait vivre à son tour, et puis ce qui nous permet aussi de donner de la force à ce qui est créateur en nous, selon les différentes modalités pour chacun d'entre nous, d'être créateur. Il y a plein de façons de le faire. Ça, c'est aussi une tâche pédagogique. Je pense aussi, quand on a été professeur, on sait bien qu'on doit aussi encourager ses élèves, ses étudiants. Et le critère, me semble-t-il, il est un sentiment même très ténu de joie quand on réussit à faire ça.
Alors, vous décrivez les choses magnifiquement, Catherine Chalet. Si on revient finalement à la fois à la pureté et à l'amour entre lesquels on circule, on voit bien, en vous entendant, qu'il pourrait y avoir deux risques finalement. Un risque de se centrer sur l'objet. On chercherait la pureté absolue. Et puis, du côté de la philosophie de l'amour, ça a existé aussi, plutôt en Grèce, quand on cherche le bien comme objet absolu de l'amour, finalement, de fonder l'amour dans l'objet. Et là, vous venez de définir un autre risque. C'est-à-dire, si on revient à la vie, il y a un risque de ne chercher que pour soi, finalement. Et là, contre cet autre risque, c'est là que l'amour vient compléter l'idée de vie, parce qu'on ne peut pas se tourner vers une vie comme pure propriété. La vie, c'est aussi tourner vers autrui, vers le monde.
Bien sûr, c'est pas la vie pour la vie. C'est pas la persévérance dans la vie pour la persévérance dans la vie. C'est encourager la vie en nous-mêmes d'abord. Et c'est pour ça que je parlais d'un travail sur soi.
En nous-mêmes d'abord, vous dites. C'est-à-dire même, au fond, il faut d'abord ne pas s'écrouler d'une part et ne pas mal tourner.
Oui,
il faut d'abord une force à entretenir en soi-même.
Voilà, à l'entretenir, parce que je dis d'abord, c'est pas une fois pour toutes, c'est de chaque instant. C'est de chaque instant et il y a un combat intérieur contre les forces, disons, négatives qui sont en nous-mêmes et auxquelles nous sommes souvent censés, avoir envie de céder, plutôt. Et par exemple, si nous sommes fatigués ou si nous sommes énervés, toutes sortes de choses.
Titillés peut-être aussi par des passions qui nous viennent aussi du monde politique, des haines sociales, des conflits.
Bien sûr, oui.
Et c'est... Fragile face à ces discours aussi. Il y a toutes sortes d'incitations négatives autour de chaque vivant.
Oui. Alors là, par rapport à ces questions de pureté et d'impureté aussi, bien sûr, ça a un impact donc moral, comme on l'a dit, mais c'est aussi politique, hein, avec toutes les questions politiques que ces enjeux. Quand on parle de la pureté ethnique,
toutes ces catégories que vous travaillez, la pureté ou ailleurs la mémoire, le pardon, ont toutes un enjeu social et politique très grand aujourd'hui. Et si on se trompe de pureté, on peut aller du côté de la guerre. Si au lieu d'aller, comme l'idée de pureté implicitement y inviterait plutôt, vers la paix, vers l'amour, mais la pureté peut paradoxalement aller vers la guerre.
Bien sûr, ben oui, dans tous les cas de pureté, de nettoyage ethnique, de pureté ethnique, et c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier que des guerres atroces ont lieu au nom de cela. Donc ça va tout à fait du côté de la mort. Mais je voudrais juste ajouter une chose par rapport au mot politique. On entend souvent dire, ah oui, tout est politique. Oui. Moi, je dis pas ça. Je dis bien sûr que cette dimension politique, elle est fondamentale. Mais si on ne pense pas aussi à un autre niveau, à un niveau justement qui est aussi plus intérieur.
Si on n'a pas une autre boussole.
Une autre boussole, alors je crois que ça, c'est destructeur.
Le moteur de la politique, c'est aussi la critique, le refus. Et pour savoir ce qu'il faut refuser, ce qu'il faut accepter, il faut bien un critère. Le critère, est-ce que c'est l'amour ? On y reviendra dans la deuxième partie de cette conversation. En tout cas, vous nous proposez une chanson sur l'amour très liée, dans sa langue même, à la tradition dont vous vous inspirez, Catherine Chalier. Merci à vous.
שוממה אין כהן ואין אביב יש אהבה אחת גדולה שהיא כולה שלנו להבין את האותות לחפש את הדרכים להמשיך ולנתב בין שאלות קשות בלי חוקים ברורים כולם יוצאים כולם חוזרים בישימון כולם טועים אל המדבר אל האהבה זו שהיא שלנו כולם יוצאים כולם חוזרים בישימון כולם טועים אל המדבר אל האהבה זו שהיא שלנו אל המדבר אל האהבה זו שהיא שלנו
France Culture, Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser et nos amours, ce soir avec Catherine Chalier, autour des différentes traditions spirituelles qui traitent de l'amour et notamment la tradition hébraïque. Catherine Chalier, justement, je serais bien incapable de dire exactement ce que nous venons d'entendre. Vous allez nous dire à la fois le chanteur que nous venons d'entendre et aussi peut-être nous traduire quelques mots de cette chanson en hébreu sur l'amour et qui nous conduira ensuite vers votre questionnement propre.
Alors c'est une chanson de Idan Reichel, qui est un chanteur israélien que j'aime beaucoup, et cette chanson me touche beaucoup. Donc c'est une chanson sur l'amour, qui célèbre l'amour avec une femme, mais aussi sur un fond de désert où on n'arrive pas à déchiffrer les signes, on n'arrive pas à trouver le chemin, à interpréter les questions, et donc où le monde semble tout à fait confus, pour dire les choses rapidement.
Catherine Chalier, vous avez enseigné la philosophie à l'université de Nanterre. Vous avez, sauf si je me trompe, commencé ce chemin vers ces traditions depuis l'étude de l'œuvre de Lévinas. Qu'est-ce qui vous a ensuite attiré vers la tradition hébraïque elle-même, en lien avec les grandes catégories de philosophie morale, puisque d'un bout à l'autre, votre travail, même s'il passe par une tradition et par l'exégèse, reste fondamentalement philosophique.
Mais j'ai découvert la tradition hébraïque avant Lévinas, en terminale.
Alors dites-nous un petit peu, Catherine Chalier. Ben,
simplement, je voulais lire la Bible d'une façon...
Dans le texte, comme on dit.
Voilà, donc puis après, j'ai très vite rencontré Lévinas, mais ben, ça commençait avant lui.
Alors on a vu, Catherine Chalier, que depuis votre livre sur la pureté, on retrouvait déjà la question de l'amour, comme peut-être dans tous vos livres, comme une sorte de critère... caché de toutes les catégories morales. Inversement, j'ai l'impression que dans votre livre sur l'amour, qui s'intitule donc « La gravité de l'amour », vous cherchez à travers la tradition hébraïque dont on vient de parler, des critères de l'amour. C'est-à-dire que même dans l'amour, finalement, ce que dit la tradition juive, peut-être avec un peu plus de prudence ou de soucis critiques que le discours parfois qui peut sembler simple, mais qui ne l'est pas, du christianisme sur l'amour, dit attention, on peut se tromper, même dans l'amour, on peut se tromper, finalement. Et donc, il y a de bons et de mauvais objets d'amour, il y a des amours qui peuvent nous entraîner vers la haine, et même l'amour de Dieu, c'est pas si simple que vous croyez. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi que, jusque dans l'amour, il faut des critères, il faut faire attention, il faut étudier?
Oui, Frédéric Van, parce que souvent, c'est pas ce qu'on dit quand on prononce ce mot.
Il sonne bien, mais...
Oui, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Alors, donc, j'essaie de montrer... Donc, il y a d'ailleurs... Par exemple, au début du livre, je me demande si on peut penser qu'il y a un amour naturel de Dieu, c'est-à-dire alors, je prends ici amour dans le sens d'éprouver en soi un manque, un vide, ouais. et de chercher donc à
ce qui peut le combler.
Donc ouais. Ça, c'est un peu très rapidement dit la définition d'eros, donc de la rencontre, voilà. Et donc j'essaie de montrer.
Eros, qui est en grec le mot qui veut dire amour et qui est aussi évidemment l'objet de la philosophie grecque de l'amour.
Bien sûr. Et donc j'essaie de montrer comment on peut trouver des dimensions de ce désir naturel, mais au fond ça ne suffirait pas du tout de penser l'amour de Dieu de cette façon-là, comme l'amour aussi des humains, et il y a ensuite donc chercher Dieu à partir de soi, et puis il y a aussi chercher ce soi à partir de Dieu. Donc c'est la dimension inverse, c'est la dimension au fond qui consiste à répondre à un appel, et cet appel vient au contraire creuser en nous un manque qui ne lui préexiste pas, et c'est un appel qui aussi nous donne une force pour pouvoir donc nous mettre en chemin. La figure, c'est Abraham dans le texte biblique, pour parler d'un personnage que tout le monde connaît, je crois, si vous voulez. Et donc là, on a les deux grandes dimensions qui sont traduites souvent par Eros et Agapé. Agapé, c'est l'amour qui donne, c'est-à-dire donc...
Qu'on traduit souvent par charité.
Par charité.
En tout cas, dans la tradition chrétienne.
Et dans la tradition juive, c'est ce qu'on appelle Chesed. Recette, c'est justement cet amour de générosité, cet amour qui donne.
Mais alors, comment est-ce qu'il nous saisit, cet amour, Catherine Chalier? Parce que vous décrivez très bien l'opposition. Donc finalement, je ressens un désir, un manque, et Dieu serait ce qui vient le combler, au fond. Et c'est des grandes traditions aussi, Dieu étant cet infini qui peut venir combler mon désir infini, le seul objet possible de cet amour. Là, au contraire, vous dites que on commence par l'amour de Dieu et on se découvre, on ne part pas d'un manque en nous-mêmes, on se découvre soi-même par cet appel. Et il y a un objet d'amour qui tombe dans notre vie, comme ça, c'est l'appel biblique.
Si on garde simplement la dimension du désir qui va vers,
oui.
En fait, ça dérive très souvent vers un amour qui cherche des gratifications. C'est-à-dire des gratifications, c'est un amour d'une certaine façon très intéressé, même spirituellement intéressé, pas seulement mercantilement intéressé spirituellement. On peut être justement vouloir être comblé par Dieu, vouloir que Dieu m'assure. Oui. Donc c'est voilà. Donc et dans cette tradition biblique, ce désir-là n'aboutit pas. Il n'aboutit pas parce que ce Dieu, c'est celui qui m'appelle pas pour me consoler, mais pour me demander d'aimer autrui. Et pour me demander aussi, donc qui détourne mon désir d'une certaine façon, vers, au lieu de le combler, il le détourne vers justement le prochain, l'étranger, l'orphelin, comme le dit la Bible.
En vous écoutant, Catherine Chalier, on comprend que Dieu, dans la Bible, est celui qui intervient pour que nous, les hommes ne se trompent pas d'objet d'amour, finalement. Pour dire, au fond, aime-moi, mais Dieu ici n'est pas l'objet privilégié. Ne te trompe pas d'objet d'amour, aime les hommes, aime le bien, aime la vie. Et là, c'est un sursaut qui nous saisit, et parce qu'on est toujours surpris, Kierkegaard le disait aussi, que l'amour puisse faire l'objet d'un commandement, que dans la Bible, on puisse dire d'aimer comme sur le mode impératif, comme ça.
Oui, bien sûr, mais ce n'est pas ici vous comprenez bien, à entendre dans le sens d'une émotion ou d'une affection. Si on dit « tu aimeras ton prochain
ouais.
comme toi-même » ou ouais. « tu aimeras l'étranger » qui ouais. est le commandement le plus souvent répété dans la Bible, j'ai envie d'insister sur ça.
Tu aimeras l'étranger ?
Absolument.
Dans l'Ancien Testament ?
Beaucoup plus que « tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est une fois. L'étranger, je me souviens plus exactement, mais c'est autour de 30 fois.
Alors, je me permets une digression, Catherine Chaillet, c'est évidemment très important, dans le monde contemporain, comme toujours. Est-ce qu'à votre avis, ce commandement, cette demande, tu aimeras l'étranger, est si souvent répétée parce que c'est la plus difficile?
Bien sûr.
Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal? Pourquoi est-ce qu'il y a une frontière qui nous sépare de l'étranger et qu'on aime autour de soi? On a d'abord un amour clos, comme dirait Bergson.
Ou on a un amour clos, comme dirait Bergson, en effet, je pense.
On aime les siens.
On aime les siens, puis on s'aime bien. et donc, voilà, ça, c'est un amour qui nous est demandé d'être tourné vers la fragilité des êtres, qui est symbolisée dans le texte biblique par la veuve, l'orphelin et l'étranger, qui est une triade que l'on retrouve de très nombreuses fois. Mais par rapport au commandement, justement, et même quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais par rapport justement à cette interrogation de certains philosophes, mais Kant, etc., comment on peut commander l'amour?
Oui.
Mais ici, vous comprenez bien que le mot amour ne signifie pas tu éprouveras une émotion de sympathie pour autrui. Pas du tout.
Il peut quand même, ça peut passer par là.
Ça peut passer
par là. C'est pas forcément contradictoire.
C'est pas forcément
contradictoire. Mais le vrai objet de l'amour, c'est quoi alors?
Mais ça ne peut pas être un commandement. Je peux pas vous commander d'éprouver une émotion de sympathie pour X ou Y. Ça, je peux pas vous le commander.
D'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut commander? Alors, quelle est la forme d'amour?
Justement, cette forme d'amour, c'est cette forme d'amour de chesed, c'est-à-dire d'amour qui donne, ou d'amour responsabilité, comme le traduit Lévinas. Donc, cet amour charité, comme vous avez dit tout à l'heure, mais pas charité dans un sens mièvre, bien sûr. Bon. Et, alors, dans la tradition juive, cet amour. Donc, ce commandement-là, on peut le commander. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, si vous prenez le texte, le chapitre, pardon, ou du Lévitique, qui se conclut par « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », si vous regardez...
Avant même le Nouveau Testament, donc on va y revenir.
Oui, c'est dans le Lévitique. Et si vous regardez les versets qui précèdent dans ce chapitre du Lévitique, vous verrez, par exemple, « tu verseras son salaire à la personne qui travaille pour toi », je traduis comme ça, le jour même, c'est-à-dire pas le lendemain,
pas
pour
demain.
Faire un petit bénéfice pour toi.
Oui.
Vous voyez bien, ça c'est une forme d'amour pratique, comme dirait Kant. C'est-à-dire,
c'est un devoir, finalement.
Oui, mais voilà, cet amour-là, c'est pas un sentiment, même si t'éprouves aucun sentiment vis-à-vis de cette personne.
Mais Catherine Chaillet, je vais vous poser deux questions en une, pardon, mais très souvent on dit que le christianisme est allé plus loin que le judaïsme en disant tu aimeras ton ennemi comme toi-même, tu aimeras jusqu'à tes ennemis. Là, vous venez de rappeler que dans l'Ancien Testament, il y a déjà tu aimeras l'étranger. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous de différent entre ces deux traditions sur ce point, ou est-ce qu'elles se complètent? Et puis, l'autre versant de la question prolonge ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, s'il n'y a aucun affect, s'il n'y a aucun même plaisir dans cet amour moral, est-ce que c'est encore un amour? Quand on dit tu aimeras l'étranger ou tu aimeras l'ennemi, s'il n'y a aucune empathie, aucun affect, comme vous disiez, si c'est un pur devoir moral, en quoi est-ce qu'on peut encore parler d'amour? En quoi est-ce qu'on peut me dire quel plaisir je vais y trouver? Pourquoi est-ce que je devrais aimer, finalement, si je n'y trouve aucun bien moi-même?
Parce que si vous dites « si j'y trouve aucun bien moi-même », en fait, vous vous accordez à vous-même la priorité. Ici, cet amour n'est pas tributaire des aléas de nos sentiments, et heureusement. Parce que si cet amour-là était tributaire des aléas de nos sentiments, il n'aurait jamais donc aucune certitude, finalement.
Mais...
Il serait tout à fait fragile. Mais ce commandement, ça veut dire tu feras tout pour que ce prochain, cet étranger, puisse vivre et vivre avec toi.
Oui, mais quand je disais, Catherine Chalier, que j'ai besoin d'y trouver du bien, ça n'est pas forcément un bien égoïste. L'objet de l'amour est quand même justement quelque chose comme le bien que je cherche. Et c'est pas forcément mon petit plaisir contre celui de l'autre. Mais si on n'arrive pas à, dans cette parole, tu aimeras l'étranger ou tu aimeras l'ennemi, à dire qu'au fond, c'est ce qui répond à ma vraie aspiration pour le bien, est-ce que quand même on ne manque pas la motivation profonde de l'amour?
Non, moi je ne crois pas.
D'accord.
Parce que, en fait, si on dit ce que vous dites, ça veut dire qu'on se pose en priorité. Et moi, par exemple, cette phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même », je sais qu'elle a eu de multiples interprétations, mais ce qu'il faut penser, c'est que « tu aimeras ton prochain », c'est ça qui te fait advenir à toi-même.
D'accord.
C'est pas tu t'aimeras d'abord et puis ensuite
tu feras pareil avec les autres.
Bon, c'est pas du tout.
Oui.
C'est pas du tout ça. Cette relation n'est pas de ce type. Mm-hmm. Mais c'est aussi cela qui te fera découvrir ton véritable toi-même, ce que tu es profondément, ce que tu es comme être humain singulier, unique profondément.
Et alors pour vous, ce commandement, on reviendra ensuite sur son contenu, mais pour vous, c'est le cœur commun du judaïsme et du christianisme, de la Bible dans son ensemble. Dans le début de vos leçons à l'Institut catholique de Paris sur ce thème, vous dites très profondément que on a souvent, la tradition même qui se voulait universelle a voulu revendiquer le privilège de cet amour, alors que finalement, il est partagé par plus d'une tradition.
Oui, il est partagé par plus d'une traduction, puisque se trouve justement dans le Lévitique. Et tout à l'heure, vous avez dit que le christianisme a voulu plus généreux, puisqu'il a dit il faudrait aimer les ennemis. Et souvent, il est ajouté, alors qu'on t'a dit tu haïras tes ennemis. C'est absolument nulle part écrit, absolument nulle part. Je mets au défi quiconque de trouver cette phrase dans la Bible juive. Elle n'existe absolument pas. Et par ailleurs, si en effet cet amour du prochain, il a pris une ampleur tout à fait importante dans le christianisme, il s'est aussi accommodé, si on lit les commentaires de saint Augustin au texte de saint Jean, il s'accommode aussi d'une virulence très forte contre ceux qui résistent à suivre le chemin qu'il enseigne lui. Donc, est-ce que c'est si simple d'aimer autrui si on n'a pas de projet pour lui? Or, saint Augustin, il a des projets pour lui.
C'est la conversion.
C'est la conversion.
C'est le salut.
C'est le salut.
C'est plutôt sympathique, vouloir le salut malgré tout. Mais c'est vrai que vous, votre critère, c'est de se tourner vers autrui d'abord.
Oui.
Et pas de se mettre à sa place, finalement.
Et pas se mettre à sa place. Et qui est-il pour se mettre à sa place?
Mais alors, Catherine Chalier, on retrouve aussi dans l'énergie que vous mettez dans cette profondeur morale, votre idée très profonde que, finalement, le point commun, c'est aussi d'assumer le contraire de l'amour. Il y a peut-être un piège quand on croit qu'il y a un amour pur qui n'a pas à lutter contre une haine. Et finalement, ce que vous trouvez dans les textes de l'Ancien Testament, alors qu'on leur reproche plutôt ce combat, c'est plutôt une force pour vous que cet amour qui est lié à la loi, justement, il est lié à la loi parce qu'il lutte contre la haine, il lutte contre un contraire.
Oui, tout à fait. Il lutte contre un contraire et donc il est nécessaire d'être dit. Je pense aussi qu'il y a un contraire qu'on n'a pas examiné qu'on pourrait examiner maintenant, si on a encore le temps. C'est un amour qui ne serait qu'amour serait finalement aussi injuste.
Alors pourquoi exactement pourquoi est-ce qu'un amour pur, parfait serait... On retrouve la question de la pureté par un biais inattendu. Là.
Il peut totalement se pervertir. Parce que si par amour, je cache un criminel nazi chez moi et je le soustrais à la justice, je suis en train de bafouer les victimes de ce même criminel et de bafouer la justice de mon pays. Je prends cet exemple parce qu'il a existé. Mais si vous voulez, l'idée qu'il faut que l'amour s'allie à la justice, c'est une idée extrêmement importante dans la plus, parce que là on a surtout parlé de d'un rapport entre deux personnes, mais le rapport il est aussi avec une société, avec une multiplicité de personnes, et donc cet amour ne peut pas être un amour exclusif et qui devient injuste par rapport à la pluralité des personnes. Et donc, l'équilibre de l'amour par la justice, ça, même les mystiques les de la tradition juive, les kabbalistes, les rassidim, pour ne citer ces deux grands courants de pensée, pensent que même cette dimension dans la théologie qui est la leur, elle est en Dieu elle-même, si vous voulez.
C'est Dieu qui permet de résoudre cette antinomie, parce que sinon, il peut y avoir, comme dans toutes les grandes philosophies de l'amour, des contradictions entre nos amours. Et Rousseau lui-même, par exemple, dans l'Émile, définit la justice par l'amour du genre humain, c'est-à-dire un amour qui s'étend à tout le genre humain, mais qui, du coup, peut en effet introduire des contradictions. Comment vais-je choisir entre l'amour pour ma mère, comme disait Albert Camus, entre ma mère et la justice, je choisis ma mère, dit Albert Camus, finalement entre deux amours. Pour vous, la clé de cette contradiction dans la Bible se situe malgré tout du côté de Dieu, finalement. Sinon, on est dans les contradictions humaines de nos amours.
Je ne sais pas si elle se situe du côté de Dieu. Je dis que cet équilibre entre la justice et l'amour, il est pensé dans la tradition mystique comme aussi animant la vie divine.
Oui, et pour vous, le sacrifice d'Abraham, d'Isaac par Abraham, enfin la demande, l'appel, c'est justement cette idée, tu dois éprouver tes amours au feu du sacrifice. Il y a quelque chose comme une épreuve extrême de la contradiction.
Ça peut être interprété comme ça, mais ce qui est surtout très important de voir, c'est que ce sacrifice n'est pas demandé.
Finalement, il n'est pas demandé. Et c'est la leçon ultime.
Donc,
il faut passer par l'épreuve de la contradiction des amours pour ne pas se laisser piéger par le piège même de l'amour. L'amour peut devenir un piège.
Ben, là, en l'occurrence, ça serait un amour exclusif de Dieu qui serait un piège.
Donc Dieu avertit contre l'excès même de l'amour pour lui, finalement.
Oui, ça c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose.
Ultime leçon morale, très contemporaine aussi, aujourd'hui. Catherine Chalier.
Tout à fait, ça c'est bien sûr, c'est très important. Mais par rapport à justement la perversion possible, tout à l'heure on a parlé de l'amour qui donne, donc de l'amour généreux, c'est-à-dire « chesed » en hébreu. Or, c'est intéressant de voir que le même mot peut désigner l'inceste. Oui, c'est très intéressant parce que justement cette double face, qu'est-ce qui va permettre justement de ne pas sombrer, c'est quand même
l'interdit,
la loi qui dit en effet la limite qu'il ne faut pas franchir.
Donc du côté de la spiritualité qu'on rapporte trop souvent uniquement à la loi, il y a aussi l'amour. Et du côté de celle qui voudrait se contenter de l'amour, il faut quand même rejoindre la loi, Catherine Chalier.
Ah, ça j'en suis sûre, oui. Oui, ça tout à fait. Et la loi n'est pas quelque chose qui détruit, elle est au contraire quelque chose qui... une parole qui place des limites et qui permet des distinctions et qui permet donc à la vie de se développer. Sinon, c'est la confusion, c'est le tohu-bohu. Et donc, dans la confusion et de le tohu-bohu, ce qui règne, c'est la violence pour s'en sortir. Et donc, c'est la parole qui distingue et qui allie en même temps, distinguer et allier.
Pour se repérer grâce à l'amour, mais aussi dans nos amours. Merci infiniment, Catherine Chalier.
Merci à vous, Frédéric Vobs.
Matière à penser et nos amours, notre troisième conversation ce soir avec Catherine Chalier, avec et grâce aussi à Pierrick Charles, Catherine Donnet, Joséphine Lampreya, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Lévine, Frédéric Worms, et je vous donne rendez-vous demain pour une quatrième conversation, cette fois-ci avec Grégoire Boullier. À demain.